c'est toujours important de servir de porte-voix à certaines causes en tout cas. Là, en l'occurrence, c'est un message envers ceux qui gèrent on va dire, les destinées du tiers-monde, puisqu'il faut croire qu'il y a des gens qui tiennent les rênes de tous ces pays. De laisser les gens du tiers-monde prendre peut-être leur destin plus en main. Puisque moi, je suis issu d'un pays du tiers-monde, le Cap-Vert en l'occurrence. J'ai participé au disque annulant la dette, drop de dette, avec un duo que j'ai fait avec Césaria. Et disons, humblement, j'essaie d'apporter peut-être mon petit grain de sable à l'édifice.
Parlez-nous un petit peu justement de ce pays du Cap-Vert. Quelle problématique ça pose, ce problème de la dette ?
Au Cap-Vert, c'est tout, puisqu'au Cap-Vert, nous vivons beaucoup de l'aide, de l'aide internationale. Bien que nous ayons une très forte émigration qui participe pour plus d'un tiers dans le budget du pays, mais bon, nous sommes tributaires de l'aide internationale. Donc le Cap-Vert est bien concerné par ce problème, puisque nous sommes amenés tous les ans à rembourser notre partie de la dette.
Je crois que les ultra-libéralistes avaient perdu les dernières élections au Cap-Vert. Est-ce qu'il y a des changements aujourd'hui qui se passent depuis le retour notamment de Pedro Pires au pouvoir ?
En fait, ils ont essayé de limiter un peu les dégâts des politiques très libérales qui avaient été faites auparavant. Ils avaient privatisé à tout va. Mais malheureusement, il y avait beaucoup d'engagements qui étaient en cours, dont ils n'ont pas réussi vraiment à s'en défaire. Bon. Et là, tant bien que mal, bon, ils essaient de colmater quelques brèches.
Vous avez l'impression qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, parce que tout se décide ici en Europe ?
Oui, c'est un peu ça, puisque bon, des choses ont déjà été décidées, ont déjà été signées, ont lieu. Maintenant, il faut peut-être bâtir un autre projet et voir s'ils peuvent se faire élire, puisque les élections, c'est dans 2 ans, les prochaines élections, sur la base d'un autre projet. Mais là, c'est très difficile. Un pays comme le Cap-Vert, qui n'a pas beaucoup de poids au niveau international, ne peut pas se défaire d'une politique qui avait été engagée par des prédécesseurs. Des prédécesseurs, c'est ça.
Il y a une autre problématique que défend le festival, c'est celle de l'eau. Avec une opération qui est faite sur le petit village, là, des associations où les gens doivent construire leurs gobelets pour prendre de l'eau. Je crois que c'est un des gros problèmes également au Cap-Vert, l'eau ou les ressources, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Enfin, c'est pas une île verte, quoi.
Oui, le Cap-Vert, disons, dans sa grande majorité, ça n'a jamais été vert, le Cap-Vert. Il y a quelques îles où on trouve de la verdure, mais c'est vrai qu'on a un grave problème d'eau qui, par le passé, a occasionné beaucoup de sécheresse, donc de famine, puisque à l'époque, il n'y avait pas tous ces moyens de mobiliser l'aide internationale pour subvenir aux besoins des gens qui mouraient de faim, notamment lors des deux précédentes guerres mondiales. Beaucoup de Cap-Verdiens sont décédés comme ça, mais bon, c'est vrai qu'on a un combat par rapport à l'eau. Donc on essaie d'installer des usines de désalinisation, de capter le peu d'eau qui existe dans les nappes phréatiques. Bon, c'est un des plus gros combats pour l'avenir au Cap-Vert.
Ici en France ou en Belgique, les gens ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est de vivre avec très peu d'eau. Est-ce que ça pose vraiment des problèmes particuliers dans la vie de tous les jours ?
Oui, enfin moi je l'ai vécu quand j'étais enfant, parce que chez mes grands-parents, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans, on n'avait pas d'eau courante. Donc il fallait qu'on aille acheter l'eau soit à la source, bien que je me rappelle, dans les derniers temps, on avait construit une citerne à la maison. Donc disons, une fois par semaine, il y avait un camion qui venait nous fournir en eau. Mais bon, ça veut dire qu'il fallait rationner l'eau, faire attention de ne pas trop la gaspiller. Voilà, donc je sais qu'en Europe, on n'a pas l'idée de ce que vivre sans eau.
Demain, il y a un forum de musiciens africains, enfin, qui a déjà un petit peu commencé ce soir. Il y a une première réunion auquel vous participez. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative, et vous pensez que ça va aboutir à quoi ?
Enfin, je ne sais pas à quoi ça va aboutir, mais c'est déjà bien que ça existe et d'en parler, de parler de tous ces problèmes qui concernent les artistes africains, de voir ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer leur sort, pour jeter les bases pour l'avenir, sensibiliser les gens qui sont au pouvoir, qui prennent conscience que nous avons vraiment une richesse culturelle et que nous avons une musique qui peut s'exporter. Je ne sais pas, bon, on verra demain jusqu'où on va aller, mais bon. Mais c'est déjà bien qu'il y a cette première pierre qui est déposée.
Vous avez la chance d'être dans une production qui est assez élargie, Loose Africa. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus par rapport aux autres qui sont en Afrique? Il y a des gens qu'on ne connaît pas du tout parce que des productions ne s'intéressent même pas à ces gens là-bas.
Vous savez que Loose Africa, bon, c'est maintenant c'est un label de référence qui essaie de valoriser la culture africaine. Bon, Loose Africa, donc lusophone dans un premier temps, mais je pense que il a largement élargi. Et bon, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. C'est, bon, tout dépend de la politique qu'on va avoir et les moyens qu'on va se donner. Mais bon, ça c'est. Je pense que le problème se posera comme ici. Quel artiste mettre en avant, vers où aller, bon, ça c'est. Ça fait partie des choix pour l'avenir. Puisque néanmoins, il y a tellement de choses qu'on pourrait présenter. Et il faut que chacun y trouve sa place. Et bon. Et ça passe aussi par des ça passe aussi par des locomotives qui vont entraîner à peu près tous ceux qui sont derrière, comme a été le cas de Césario Cap-Vert, qui dans son sillage a amené beaucoup de monde. Il faut présenter des choses de qualité pour ne pas lasser les gens. Je pense que le plus important, c'est ça. C'est faire le tri entre ceux qui ont vraiment de la qualité. Bien sûr, comme on dit, malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Mais c'est une loi constante dans toute chose, en fait.
Est-ce qu'on peut être un artiste aussi engagé et rester léger et garder sa gaieté?
Oui, on peut s'engager en toute gaieté. Je veux dire, c'est pas un drame de s'engager. Comme ici, c'est dans ce festival. Il y a un côté festif, donc on s'engage, mais en même temps on fait la fête. Peut-être c'est pour faire passer le message. On peut faire passer le message par ce biais-là, peut-être d'une façon plus efficace, sans trop dramatiser, parce qu'il y a déjà tellement de drames qui nous assaillent.
Pour vous, ce n'est pas donc une douce utopie d'un festival comme celui-ci, c'est quelque chose qui peut vraiment servir à quelque chose?
Oui, c'est quelque chose de. Bien sûr, c'est toujours à long terme que ça porte ses effets. Plus il va avoir de répercussions, plus ça va être connu, donc les gens vont s'intéresser au festival et par là même aux raisons qui ont motivé sa création. Évitons de parler de folklore quand on parle des musiques du tiers-monde, parce que dans ce cas-là, ils sont aussi folkloriques que ceux des autres contrées. C'est aussi une musique qui appartient à l'être humain, une musique universelle. Pour moi, il n'y a pas de folklore qui tienne. C'est des choses qui engagent tous les hommes.
Vous sentez ça ici?
Parfois, je sens, peut-être pas ici, mais dans certains médias, on a tendance à cataloguer, à dire, bon, ça c'est la musique du tiers-monde, c'est la world music. Donc. Nous sommes autre chose. On fait du rock, de la variété. Voilà, c'est. Donc, je ne sais pas, c'est. D'ailleurs, dans les deux sens. Hein. La musique, c'est un partage. Avant tout, c'est. Toutes les musiques se valent, en fait. Arrêtons de faire des classifications.